Quand j'étais petite, j'ai toujours dit que je voulais être juge pour enfants ou riche. C'est une anecdote assez drôle parce que aujourd'hui on va parler de but dans la vie, de purpose of life, de comment trouver finalement quelle est notre place sur Terre, ce fameux potentiel, cette fameuse mission de vie. Quand j'étais petite, finalement, je rêvais, un, je pense, de richesse, mais cette richesse-là, elle était surtout liée au fait et à l'idée de pouvoir rendre à mes parents ce qu'ils avaient fait pour moi, de pouvoir avoir assez d'argent pour ne pas me prendre la tête, pour pouvoir vivre une vie de no stress. En fait, par là, ce n'était pas la quête de l'argent pour la quête de l'argent, c'était vraiment avoir une vie confortable pour pouvoir profiter au mieux. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, l'argent, c'est un peu le nerf de la guerre, le capitalisme nous impose qu'on ait de l'argent pour pouvoir vivre. En fait, c'est les règles du jeu et on n'y peut rien. Juge pour enfants, je pense, aujourd'hui je n'aime pas le droit et je ne pourrais pas en faire, mais je pense que c'était lié au fait que j'aime aider les gens. Et juge pour enfants parce que j'ai toujours eu cette attache-là à des personnes qui sont en quête de repères. Et c'est peut-être ce que je mets à profit aussi dans mon association Concentré de Talent, où justement on aide les jeunes à s'orienter et puis les moins jeunes à se réorienter et à faire plein de choses dans la lutte contre les inégalités sociales et scolaires. Donc j'aurais pu travailler pour réaliser ces ambitions-là, quoique devenir riche, ça je ne sais pas, parce que qu'est-ce que la richesse, ça c'est un autre débat. Mais au final, la vie a évolué et à part, j'aimais pas le droit, donc à part le fait de dire je veux réussir ma vie, finalement j'avais aucune idée de ce que je voulais faire de ma vie. Et pendant l'école, après avoir terminé l'école, après avoir trouvé un emploi, après avoir gagné de l'argent, en étant cadre, donc en étant quand même dans un train de vie plus élevé que la majorité des gens, etc., mes aspirations professionnelles, elles ont changé. Elles ont changé très très rapidement et de manière très fluctuante sur plein de sujets différents. Mais on en revenait toujours à ces valeurs que finalement l'enfant que j'étais avait façonné, avait décrit, avait posé. Et il m'a fallu vraiment, je pense, 5 ans d'expérience pro pour définir un peu plus clairement ce que je voulais faire de ma vie. Et il y a de fortes chances pour que vous soyez comme moi et que vous n'ayez aucune idée de ce que vous voulez faire. Et finalement, qu'est-ce que c'est faire quelque chose de sa vie? Est-ce que mon but dans ma vie, ma mission, c'est en lien avec mon travail? Est-ce que une vie, c'est en lien plutôt avec la globalité de sa vie? En fait, on traverse tous ce délire de qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qu'est-ce qui me passionne? À quoi ne suis-je pas nul? Et il y a beaucoup de gens qui se trouvent nuls aussi dans des choses, qui voient aussi des gens, que ce soit autour d'eux ou dans les réseaux et tout, même moi, ça m'arrive de voir des proches à moi qui font des trucs de dingue et je me dis waouh, je pourrais jamais faire ça. Et je les admire. Je les admire parce que je me dis ok, en fait, leur réussite, elle est vraiment liée à leur travail parce qu'ils sont sur tous les fronts, ils se sont motivés, ils ont redoublé de créativité, d'originalité, d'efforts. Et je me trouve nulle à côté. Et je sais que ça arrive à beaucoup de gens parce que je reçois beaucoup ce type de message. En DM sur Instagram ou dans mon entourage, on me dit Ania, t'as l'air épanouie. T'as l'air épanoui dans ce que tu fais, t'as l'air épanoui et t'as l'air d'avoir trouvé ce potentiel-là. Donc comment on peut faire? Moi, je pense qu'une partie du problème, c'est déjà la recherche. C'est ce concept-là de but de la vie lui-même. On n'est pas... Personne de nous, on comprend le problème à l'envers. Personne de nous n'est né avec un but comme on l'entend, donc avec une mission macro, vraiment spéciale, etc. Non, on existe sur Terre pendant une période qui est indéterminée, qu'on ne connaît pas. Et pendant ce temps, on fait des choses. Certaines de ces choses sont entre gros guillemets importantes, et certaines d'entre eux ne sont pas importantes. Ces choses importantes, c'est celles qui vont donner un sens et du bonheur à nos vies. Et ce qui n'est pas important, c'est ce qui tue le temps. Mais parfois, ces choses pas importantes qui tuent le temps peuvent nous aider à nous épanouir et donc à donner aussi du sens aux choses importantes. Donc quand les gens disent que dois-je faire de ma vie, quel est le but de ma vie, en fait ce qu'ils demandent c'est que puis-je faire pendant ce temps-là qui est important? Et ça, c'est une question infiniment meilleure à poser, c'est beaucoup plus gérable, parce qu'on n'a pas tout le bagage ridicule de la question du but de la vie, parce que le but suprême de la vie, en tout cas pour beaucoup d'entre nous, ça va être lié à qu'est-ce qu'on fait sur Terre d'un point de vue vraiment métaphysique, spirituel, etc. Et il n'y a aucune raison qu'on vienne justement combler ce but de vie, parce qu'il est déjà complet en fait. Donc, ce qu'on doit faire, c'est plutôt trouver ce qui nous semble important. Et l'une des questions que je reçois le plus souvent, c'est les gens qui me demandent qu'est-ce qu'ils devraient faire de leur vie, quel est leur but de vie. Et c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre parce que pour tout ce que je sais, cette personne, elle va aimer certaines choses et moi, je ne connais pas ce qu'elle aime, donc j'en ai aucune idée. Donc, moi, qui je suis pour venir dire, même si on me dit... j'aime ça, etc. Qui je suis pour venir dire qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est pas important, etc. Donc, j'ai rassemblé une petite série de questions pour un peu vous aider à comprendre par vous-même finalement ce qui est important et ce qui peut ajouter plus de sens à votre vie. Et c'est pas exhaustif, c'est pas définitif. En fait, il faut absolument que vous vous posiez cette question en continu parce que tout évolue finalement. Et que vous soyez à la recherche d'un emploi, de votre orientation de rêve ou de votre réorientation, de ce qui peut vous rendre heureux, des voyages, un centre d'intérêt, etc. Eh ben, il faut toujours se demander qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui va me rendre heureux. Et ça, c'est pas que sur l'année ou sur des grosses périodes long-termistes, pas du tout. En fait, c'est tous les jours parce que chaque jour, ça crée une semaine. Et ces semaines-là créent des mois, et ces mois-là créent des années, et finalement ces années-là créent votre vie. Et ça veut dire qu'à chaque fois que vous vous dites aujourd'hui n'est pas important, on verra demain, et ben ce jour-là comptez énormément dans la somme de toutes ces journées qui créent finalement votre vie. Une des premières questions qu'on peut se poser, c'est quelle lutte ou quel sacrifice êtes-vous prêt à tolérer? En fait, quelle chose négative dans votre vie êtes-vous prêt à accepter? Parce que, en fin de compte, pour moi, ce qui détermine notre capacité à nous en tenir à quelque chose qui nous tient à cœur, c'est notre capacité à gérer les zones difficiles et à sortir justement de ces jours un peu pourris pour avoir ce but-là qui nous drive et qui nous permet d'être heureux. Moi, par exemple, il y a des choses qui me feraient kiffer, honnêtement, mais je sais quelle est ma tolérance de sacrifice et de lutte. Il y a des choses qui vont me demander trop de temps. Et j'aimerais bien, moi j'aimerais bien devenir Lena Situation, faire des vlogs, avoir pas de vie de 8h à minuit et tout, et créer du contenu et inspirer sur plein de choses. Mais dans les sacrifices que je suis prête à faire, il n'y a pas le fait de sacrifier tout mon temps à ça. C'est clairement ça. Et si vous voulez être, par exemple, je sais pas moi, un brillant ingénieur ou un chercheur ou quelqu'un qui fait des choses et que vous pouvez pas gérer l'échec, alors vous n'allez pas aller loin. Et justement, cet échec-là, il faut voir est-ce que vous pouvez le gérer ou non. Si vous voulez être un artiste plutôt dans le monde de l'art, de la culture, et vous n'êtes pas prêt à voir votre travail rejeté des centaines, des milliers de fois, alors c'est pas pour vous. Quand moi j'ai regardé le documentaire sur Jacques Mus, au début, il était critiqué justement parce qu'il faisait des choses trop avant-gardistes. Et il a persévéré jusqu'à aujourd'hui et il est devenu un créateur, un des plus connus maintenant internationalement. Si vous voulez être avocat, mais que vous ne pouvez pas supporter justement les semaines de travail éprouvantes et également la misère finalement des gens et parfois les situations d'injustice, alors c'est pas pour vous. Donc la première question c'est quelle expérience désagréable êtes-vous capable de gérer? Est-ce que vous êtes capable de rester éveillé toute la nuit en faisant du code? Est-ce que vous voulez remettre à plus tard la création d'une famille pendant 10 ans? Est-ce que vous êtes capable de fédérer une communauté? Donc en fait, quelle finalement chose pourrie t'as envie de mettre dans ta vie parce que tu vas en rencontrer? Et ces choses-là, ces choses négatives, c'est ton avantage parce que tout ce que tu es prêt à faire et que t'aimes faire, et ben il y a la plupart des gens qui sont pas prêts à le faire. Et du coup, dans ce que t'aimes faire, ça va te donner une avance parce que les gens vont abandonner. Et ça, en économie, c'est les avantages concurrentiels, c'est les barrières à l'entrée. Vous allez créer en fait votre barrière à l'entrée. Donc, choisissez bien et ça vous permettra de savoir dans quoi vous pourrez être probablement meilleur que d'autres personnes déjà. Moi, par exemple, comme je vous ai dit, j'ai des amies, elles sont super fortes en commerce, en plein de choses, enfin, dont moi, qui, où je suis pas très forte, moi, je suis très inspirante, motivante, etc. J'ai plein d'idées, mais je suis plus dans les concepts, moi, je suis très créative et tout. Et s'il fallait que je bosse sur un truc précis, toute l'année, vous voyez, en mode, tu crées un empire d'un truc, voilà, précis, parfum, robe, déco, etc. Moi, je pourrais pas, en fait, je me lasse vite et tout. Et je suis pas prête à sacrifier ma créativité. Alors que, voilà, du coup, il y a des gens qui sont prêts à sacrifier certaines choses, du coup, ils vont être meilleurs que moi, et c'est normal. Totalement logique. La deuxième question, et elle est très intéressante parce qu'elle rejoint mon anecdote finalement du départ, si vous avez bien suivi, c'est qu'est-ce qui est vrai à propos de vous dans votre vie maintenant qui rendrait triste votre enfant intérieur, votre enfant qui vous étiez à 8 ou 10 ans? Parce que la pression sociale, j'en parle souvent, elle va débuter un peu à l'adolescence et beaucoup plus tôt hein, aussi, notamment en fonction des genres, parce qu'on va donner des éducations complètement différentes aux filles, aux garçons. Ça aussi, ça va déjà les conditionner à plein de choses, etc. Donc, la pression sociale, la pression professionnelle des jeunes adultes, elle nous fait sortir de cette passion, de ces centres d'intérêt, de cette vision, de ces valeurs qu'on avait quand on était petit. Et on nous apprend finalement que la seule raison de faire quelque chose, c'est d'être récompensé pour cette chose-là. Et donc, on ingère cette nature transactionnelle, vous voyez, de l'homo economicus qu'on apprend en économie dans les premiers cours. On rentre dans cette transaction du monde. En gros, je vais faire quelque chose, on va me donner quelque chose, et ça nous étouffe parce que on oublie justement les choses qu'on aimait faire et qui auraient rendu heureux le petit nous et qui aujourd'hui sont complètement oubliés et qui auraient pu aussi faire nature de transaction si on avait réussi quand même à le trouver et à le transformer. Et le problème, c'est qu'on a oublié ça et in fine, on est devenu juste des êtres neutres en fait. Quand j'étais petite et j'en parlais dans ma vidéo ChatGPT m'interview sur YouTube, si vous voulez aller voir, moi j'aimais énormément bricoler. J'étais très manuelle, je faisais énormément de chimie, biologie, enfin en fait je mélangeais plein de choses. J'étais très animée par la science et avec le temps ça s'est perdu. J'étais aussi animée par l'informatique parce que je faisais beaucoup de montage photo, j'avais craqué à l'époque, je sais plus c'était Final Cut Pro mais quelque chose comme ça, j'avais craqué Photoshop, etc. Et en fait je kiffais tout ce qui était en lien avec l'art mais aussi avec l'innovation, avec le... Voilà, avec faire quelque chose en fait de ma créativité, de mes mains et tout. Et avec le temps, ça s'est complètement perdu. Et quand je suis arrivée par exemple en école de commerce, une fois qu'on devait choisir le master, vous savez, il y avait des masters incroyables dans mon école. On avait par exemple entrepreneuriat et innovation. On avait un master qui était partagé avec une école de design. Donc on était vraiment dans l'idéation, dans le design, mais lié aussi à l'IT, au management, etc. Et moi, en fait, je suis partie de là où tous les gens qui étaient dans cette matrice, qui n'avaient pas de passion, allaient. Donc je suis partie dans l'IT, en majeure ingénierie des systèmes d'info, master qui préparait au métier du conseil qui n'était pas du tout intéressant dans ma branche. Et au final, je suis rentrée dans cette matrice-là. Et c'est pas un regret, mais si je revenais à ce moment-là, je ferais les choses différemment. Et si j'avais eu quelqu'un à ce moment-là qui m'avait dit, mais Anya, mais t'es folle, t'es créative, t'écris, t'aimes inventer des choses, t'es super inventif, hein, vraiment, je peux faire des prototypes de plein de choses ou quand, en fait, j'ai toujours des plans B, des plans C, si je vois quelque chose, vous allez, enfin, une personne qui n'a pas cette branche-là, elle va voir juste l'objet, moi j'arrive à le voir d'une autre sorte, à toujours détourner les choses, etc. Et en fait, ma sœur, si à ce moment-là, je lui avais dit, j'hésite, mais on n'était pas... On n'avait pas vraiment parlé de ça. Elle m'aurait dit, mais Anya, mais pas du tout, en fait, va dans tel master, il est tellement fait pour toi. Et aujourd'hui, bah, c'est à moi finalement de vous donner les billes pour que vous puissiez prendre conscience de ces choses-là et ne pas justement aller dans des voies toutes tracées. Aujourd'hui, je suis contente parce que justement, j'ai réussi à sortir de ça. Et vous le savez, je fais plein de choses, mais il y a une grosse partie de mon temps qui est dédiée à la création de contenu. La création de contenu, ça m'anime parce que c'est de la créativité. J'écris mon livre et en même temps, je suis en train d'entreprendre sur un projet qui me fait kiffer. Donc voilà, il y a plein de choses que j'aime faire. Par exemple, quand il y a quelqu'un qui a besoin de photos ou qui est en train de créer sa marque, moi je suis beaucoup dans la direction artistique, dans le conseil, dans le coaching, même gracieusement envers mes proches. Et moi c'est quelque chose que j'adore parce que justement, en fait, j'aime apporter mes idées. J'aime pas forcément l'exécution. J'aime apporter mes idées, j'aime challenger. Et c'est ça qui m'anime. Il y a pas longtemps, parce que je fais du coaching, j'accompagnais une amie, quelqu'un qui me suivait, qui est devenue une amie pour moi, qui a créé son podcast. Et j'ai tellement aimé le challenger dans le fond comme dans la forme. Et en fait, c'est ces choses-là que j'aime. Et donc, on a tendance à perdre le contact avec ce qu'on aime quand on était enfant. Parce que justement, comme je vous le disais, pression sociale, etc. Et cette nature transactionnelle, il va falloir que vous vous en détachiez, même si c'est dur. Et finalement, c'est un peu le concept de l'ikigai, hein, parce qu'il va quand même falloir nuancer, être dans le juste milieu et pouvoir raccrocher des wagons au carrefour finalement de vos compétences acquises, de vos capacités passées et d'aller vers des capacités futures qui vous épanouissent un peu plus. Et voilà, moi par exemple, j'ai découvert à quel point j'aimais écrire un peu tard. Moi, quand j'étais petite, en fait, j'écrivais des chansons et je rêvais aussi d'être chanteuse à un moment. Et c'est un peu comme James d'ailleurs, du coup, j'écrivais plein de musique, etc. Et à l'âge adulte, c'était plus trop mon délire. Et j'ai pris du temps à commencer à réécrire et à écrire d'un autre point de vue, à écrire dans un autre format, donc qui était l'écriture en général. J'ai écrit beaucoup de poésie, j'ai écrit beaucoup d'essais, j'ai écrit beaucoup de textes, et ça, je m'en suis souvenue tard. Donc voilà, pareil, je lisais énormément, j'ai gagné plein de concours de lecture et tout, et j'arrive à l'adolescence, et là, plus du tout. On commence à sortir, on commence à rentrer dans le moule. Vraiment, l'adolescence, on oublie tout, on rentre tous dans ce truc-là. Là, on n'est même plus dans les pressions pro ou quoi. C'est vraiment, on se dit, on veut des amis, on n'a pas envie d'être rejeté inconsciemment et on fait juste comme tout le monde. Et si mon moi de 8 ans demandait à mon moi de 20 ans, mais pourquoi t'écrivais plus? Pourquoi tu faisais plus ça? Bah, en fait, parce que je suis pas dans le bon cadre, parce que peut-être que personne aurait lu ce que j'écrivais, peut-être parce que je peux pas gagner d'argent avec ça. Et toutes les réponses que j'aurais pu donner, vous imaginez bien en fait que j'ai tort. Mais cette version-là de moi, à 8 ans, elle m'aurait dit, mais pourquoi en fait, c'est quoi ça? Enfin, c'est quoi cette vie que tu me proposes? Parce qu'à 8 ans, on se dit pas, bah on s'en fiche en fait si les gens lisent ou pas. T'as juste envie de t'amuser en fait. Donc voilà, la deuxième question, c'est quelle passion d'enfance t'as perdue à l'âge adulte? Et quelle activité tu devrais peut-être réenvisager, même si c'est juste pour le plaisir, tu n'as pas besoin de faire des choses pour faire des choses. Par exemple, j'avais commencé la couture et c'est vrai que j'avais grave aimé, mais comme je pensais qu'à la finalité de chaque moment de couture, je devais avoir un objet, donc une robe, quelque chose, voilà, de concret. Bah, j'avais arrêté. Alors que finalement, non, si j'aime, j'aime. Et puis c'est tout. Pareil pour la peinture. J'étais dans l'optique qu'il fallait que j'aie une peinture finie. Alors que si j'aime peindre, je prends un papier et je peins. Et c'est tout. Après, si je veux le jeter à la poubelle, tant pis. Ensuite, on va parler de quelque chose dont j'ai déjà parlé sur Instagram. Vous pouvez me suivre sur Insta si vous voulez. Si vous me découvrez en podcast, c'est Ania.Tairi. Et d'ailleurs, vous pouvez mettre un commentaire, que ce soit sur Spotify, Apple Podcasts, 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de recommander le podcast à vos amis et tout. Ça me fait plaisir. La troisième chose, c'est l'état de flow. Pour ceux qui connaissent et pour ceux qui ne connaissent pas, très rapidement, l'état de flow, c'est un état dans lequel vous êtes totalement absorbé et donc vous n'êtes pas ennuyé, vous êtes drivé par ce que vous faites, vous êtes pris dedans. Et vous n'avez pas le temps de penser à qu'est-ce que je vais faire après, qu'est-ce que j'ai fait avant. Non, en fait, vous kiffez ce que vous faites, vous kiffez le moment, vous êtes en pleine productivité. Et cet état de flow-là, il est vraiment au carrefour, au milieu de quelque chose qui n'est pas ennuyant et qui est un peu challengeant. Donc, où vous avez les compétences, mais quand même, où vous allez développer d'autres choses. Et vous savez, c'est quand les minutes ça se transforme en heures et que vous voyez même pas le temps passer et que vous dites oh là là et tout, j'ai oublié, je devais aller à tel rendez-vous. Ma soeur, ça lui arrive très souvent. Elle, ce qu'elle kiffe, c'est vraiment pareil un peu, mais à son dans autre chose. Elle aime le dessin, elle aime le design, elle aime aussi la DA et elle fait des choses incroyables en termes de chartes graphiques et tout. Et des fois, je l'appelle, je l'appelle, je l'appelle parce qu'on doit sortir et elle va me répondre 1 heure après. Elle me dit, oh, j'ai pas vu l'heure passer. Oui, bah, mets une alarme, s'il te plaît. Et cet état de flow, en fait, il peut se retrouver dans plein de choses et c'est pas forcément une activité à proprement parler. C'est plus un mindset, c'est quelque chose que vous aimez. Ça peut être lire des livres, mais ça peut être enseigner quelque chose à quelqu'un. Ça peut être résoudre des problèmes techniques. Moi, j'ai un pote à moi, je vous jure, il est ingénieur en système et réseau. Il peut passer mes 4 heures à régler un problème alors que moi, au bout de 2 secondes, j'en ai marre. Alors que des fois, c'est des problèmes sur mon ordinateur. Il prend la main sur mon ordi. Il dit non, non, non. Et je lui dis, mais c'est bon, c'est pas grave si on trouve pas et tout, c'est pas important. Il dit non, 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 on va trouver et tout. Et je le laisse sur mon ordi et 3 heures après, il peut être encore là alors que moi, ça m'ennuie, mais tellement. Et voilà, ça peut être plein de choses. Des choses qui peuvent vous tenir éveillé la nuit. Et regardez aussi les principes cognitifs qui se cachent derrière ces activités parce que elles peuvent facilement être appliquées, enfin, ils peuvent être facilement appliqués ailleurs, justement. Essayez de voir quelles sont en fait les valeurs derrière et comment elles s'impliqueraient dans d'autres choses. Voilà, ça peut être, par exemple, vous aimez l'organisation. Moi, clairement, je kiffe organiser. Alors là, je peux organiser des choses pendant des heures et j'aime organiser pour les autres. Mes copines, elles le savent. Quand elles ont quelque chose à faire, je leur dis, ok, c'est à quelle heure? Tu dois faire quoi? Tu dois acheter quoi? Vas-y, je te fais une to-do, je te fais ci, je te fais ça. J'aime trop. Bah, en fait, je suis une chef de projet de formation, même si dans l'IT, j'aime pas forcément, parce que c'est des technos que j'aime pas. Voilà. Mais à la base, moi, je suis une chef de projet. C'est ça, une chef de projet avec beaucoup de rigueur, beaucoup d'organisation, mais aussi beaucoup de créativité. Tout ça peut se retrouver dans plein de choses. Et ça, c'est mon état de flow. Donc, quel est votre état de flow? Qu'est-ce que vous aimez faire? Et qu'est-ce que vous pourriez aimer faire dans d'autres activités qui ont un petit peu le même mood finalement? La quatrième des choses, elle rejoint un peu la première, ça serait à quel point vous pouvez vous embarrasser, pourquoi êtes-vous prêt à vous afficher finalement, à peut-être faire pitié, à voilà, à faire quelque chose même que vous ne savez pas faire, à quel point et dans quoi? Vous pouvez mettre votre énergie à faire quelque chose dont vous avez vraiment aucune idée. En gros, vous êtes là et dites, mais je sais pas du tout ce que je fais. Et ça peut être à plusieurs reprises, etc. Parce que quand vous faites quelque chose, au début, ça peut être nul. Je vous donne l'exemple d'ouvrir un compte Instagram. Et j'en ai fait une vidéo, mais que j'ai pas sortie encore, sur les réseaux sociaux. Au début, vous allez commencer, vous avez un abonné. Non, vous avez 0 abonné. Allez, votre mère peut-être, vous avez un abonné. Et vous allez travailler. C'est pour ça que les gens pensent qu'être créateur de contenu, c'est pas un travail. Au début, vous n'êtes rien. Au début, vous avez 0 abonné. Et vous allez travailler alors que vous savez pas si des gens vont apprécier ce contenu. Et alors que de base, quand on est créateur de contenu, même si on aime faire le contenu, ça c'est sûr et certain parce que c'est de la création et que voilà, on aime le partage. Ça c'est une valeur, le partage. Et le partage, vous pouvez le faire sur les réseaux, vous pouvez le faire dans un livre, vous pouvez le faire avec vos proches, vous pouvez le faire voilà, de plein de façons différentes, mais c'est parce qu'on aime le partage. Mais au début, vous allez peut-être être embarrassant, vous allez peut-être pas comprendre comment marche CapCut, comment marche ci, comment marche ça, et c'est normal. C'est normal parce qu'on ne devient pas un expert, un génie dans quelque chose dès le départ. En général, derrière, on va avoir des raisons comme le regard des gens. Donc en gros, on se soucie de ce que pourraient penser les gens. Bon là, franchement, on perd du temps. Pourquoi ces personnes-là, à la fin de la journée, elles ne pensent pas à vous? Vous, à 60 ans, vous ne penserez pas à elles. Donc fin de l'histoire. Vous n'allez pas passer à côté de votre vie pour ce que les autres pensent. Ça, on le supprime tout de suite. Ensuite, par exemple, vous allez dire, ouais, mais je peux pas faire tel projet parce que moi, je dois passer du temps en famille ou ça va interférer avec d'autres projets, etc. Ça, ok, je suis d'accord. Vous n'êtes pas prêt à mettre autant de ben, en fait, à faire quelque chose au début, vous allez être nul parce que, ou vous avez peur de faire parce que vous avez trop de choses encore à côté, auquel cas vous allez trouver votre balance à un moment. Et là, c'est une question d'organisation, de motivation, etc. Après, pareil, si c'est mes parents ne voudraient pas que je fasse ça, ou mes amis en fait, trouveraient que... Ouais, en fait, si j'échoue, bah, j'aurais l'air un peu bête, etc. Vous abandonnez quelque chose dont vous vous souciez vraiment, qui aurait pu vous... dans lequel vous auriez pu évoluer pour des gens, et ces gens-là, je vous jure qu'au plus profond d'eux-mêmes, ils ne se soucient pas vraiment de ce que vous faites, pas parce que ils ont des mauvaises intentions, etc. Non, c'est parce que c'est pas leur vie. Donc oui, ils vont dire des choses, mais je vous assure que une fois que vous aurez forcé le truc, ces gens-là, ok, ils vont faire leur vie, et même vos parents, hein, à force de forcer, etc., Voilà, ils vont s'y faire et puis eux, ils vont dire, ouais, moi j'ai fait ma vie, maintenant je le laisse faire sa vie. Et ça, c'est normal. Après, si vous avez des potes qui peuvent se moquer de vous ou qui trouvent que vous faites pitié, ok, est-ce que c'est vraiment vos amis? Je ne sais pas. Et bizarrement, au début, les gens disent tout le temps ça, et peu importe dans quoi, hein. Vous avez envie de vous mettre au sport, vous avez envie de créer un réseau social, etc. Il y aura toujours quelqu'un pour dire ah ah ah, mais le jour où vous réussissez, ça arrive souvent dans les changements corporels. Au début, vous voulez maigrir, on va vous dire mais t'es très bien comme ça. Ou vous voulez prendre de la masse, on va vous dire mais t'es très bien comme ça. Pourquoi tu veux faire ci, pourquoi tu veux faire ça? Et quand vous arrivez à votre objectif, on vous dit oh là là, mais t'es trop bien et tout. C'est pareil pour tout. Le jour où vous percez sur les réseaux, vous percez dans un truc, il y aura tout le monde pour dire oh là là, mais trop cool et tout, alors qu'au début, on se moquait de vous. C'est normal. Et pour moi, les grandes choses sont par nature même uniques et non conventionnelles, parce que justement, personne n'y a pensé. Et tout le monde bah, n'est pas animé par cette chose que vous avez dans votre tête. Et par conséquent, pour les atteindre, on doit aller à l'encontre justement de cette mentalité, de cette norme des gens qui vous entoure. Et ça peut faire peur. Et c'est ça la question que vous devez vous poser. Qu'est-ce qui vous fait peur? Et quelle est la raison? Est-ce que c'est une bonne raison ou est-ce que c'est une mauvaise raison? Et finalement, comment je peux arrêter de trouver des excuses et commencer enfin à faire quelque chose? Et plus une décision vous fait peur, plus il y a de chances que vous deviez la faire. Si ça vous fait super peur de partir 3 mois habiter en Asie et faire un road trip de folie et tout, c'est bizarre que vous pensiez à ça. Pourquoi vous penseriez à ça? En fait, c'est parce que vous avez envie de le faire, mais juste vous avez super peur de le faire. Donc, essayez de casser les barrières mentales, si c'est des bonnes raisons, alors ok, mais si c'est des mauvaises raisons, alors go, en fait. Enfin, je pense qu'on peut parler du monde. Comment, la question, c'est comment vous allez sauver le monde, comment vous allez apporter au monde. Et je le dis souvent, le monde est constitué d'humains, ces humains sont des individus et la somme de ces individus crée le monde. Ok, c'est une boucle. Cette somme d'individus, bah, elle va créer justement tout ce qui découle de notre planète. C'est les individualités qui vont créer le groupe. Donc si vous vous dites, moi, je ne peux pas driver, je ne peux pas faire des choses parce que de toute façon, à mon échelle, c'est mort. C'est faux, car vous faites partie de cette somme des individus. Donc, ok, vous n'allez pas résoudre tous les problèmes du monde par vous-même, mais vous pouvez contribuer à faire la différence. Et ce sentiment de faire une différence, il n'est pas que faire le bien pour faire le bien. Ok? C'est pas du good for good. Je suis traductrice maintenant. Non, c'est finalement quelque chose qui va être important pour votre propre bonheur et votre épanouissement. Et si vous pensez que c'est pas le cas, c'est faux. Dans notre nature saine, dans notre nature humaine, l'humain a quelque chose de tellement sain qui est justement le don, et ce don-là rend heureux. Il y a beaucoup d'études qui montrent que, par exemple, on est plus heureux de donner un cadeau que de le recevoir. Chez des gens, ça se voit énormément. Mais voilà, les recherches en neurosciences, en psychologie, elles ont montré ça. Nous, au quotidien, on est bombardés d'infos, on a l'impression que le monde va mal, que tout est foutu. Et en fait, ça déséquilibre ce qu'on a dans notre tête parce qu'on pense que justement, on ne peut pas faire la différence. Et la recherche confirme également que pour vivre une vie heureuse et saine, on doit s'accrocher à des valeurs qui sont plus grandes que notre propre plaisir ou notre satisfaction. Et il faut justement s'accrocher à ce désir-là de pouvoir changer les choses. Et tout ne va pas mal. C'est le livre Factfulness qui est incroyable, justement, qui démontre ces biais de négativité qu'on a, ces biais négatifs auxquels l'humain s'accroche. En fait, ça va vous permettre de dire, ok, il y a quand même des choses qui vont bien, donc moi, je peux vraiment faire la différence. Ok, il y a beaucoup de choses qui avancent et vous devez choisir un problème et justement commencer à sauver le monde, trouver un problème qui vous tient à cœur et commencer à le résoudre. Et de toute évidence, vous n'allez pas résoudre tous les problèmes du monde et vous n'allez pas régler ce problème à vous tout seul, mais vous pouvez contribuer à faire une différence. Et ce sentiment de faire une différence, en fin de compte, c'est ce qui est le plus important pour votre bonheur, votre épanouissement. Donc la question que vous devez vous poser, les questions, c'est quel problème vous intéresse, de quoi vous vous souciez, et qui est plus grand que vous, hein, qui est voilà quelque chose qui est important, et comment vous pouvez faire la différence. Et là, en fonction de tout ce que vous avez vu avant, et ben vous pouvez voir Vous pouvez essayer de brainstormer avec vous-même et de comprendre qu'est-ce que vous pouvez faire. Je ne sais pas, moi, si votre problème, c'est que vous avez l'impression qu'il y a une fracture dans les relations avec les gens, que les gens ne sont pas heureux. Par exemple, vous vous dites la santé mentale des gens va mal et tout. Vous pouvez vous dire, bah moi, comment je vais faire la différence? C'est qu'au sein de ma famille, je vais essayer d'être à l'écoute, je vais essayer d'être la personne qui peut conseiller, je vais essayer d'être plus présent, je vais essayer de soutenir, etc. Si vous vous dites, l'éducation, elle est pas ouf, les jeunes, ils partent avec des handicaps, dans certaines classes, il y a beaucoup d'inégalités, que ce soit dans le monde, avec les pays, entre guillemets, en sous-développement, développés, en développement et tout. Comment moi je peux aider sur ça? Est-ce que je vais aider mon petit frère à faire ses devoirs? Est-ce que je vais essayer d'être bénévole dans une asso? Est-ce que je vais lire des livres sur ça pour essayer de me documenter, ensuite repartager mes connaissances? Si c'est un métier, est-ce que je vais devenir prof? Est-ce que si, ça, etc. Mais ça peut être d'autres problèmes, hein? Ça peut être des choses. Enfin voilà, j'ai pas brainstormé sur tous les problèmes du monde, mais j'ai envie de dire, moi, par exemple, un des problèmes pour lequel j'étais soucieuse, on enlève un peu tout ce qui est inégalité, puisque vous l'avez compris, ça m'anime, c'était les gens vont mal et les gens se démotivent. Et du coup, j'avais l'impression que le monde était dans ce truc-là de pilote automatique et que justement, ces personnes-là, le monde, moi aussi hein, comprise, on se déconnectait du positif, on voyait que ce qu'il y avait de négatif, ou parfois on était tellement neutre qu'on était dans ce train-là, dans ce wagon, et juste qu'on avançait sans rien regarder. Et moi, ce problème-là, finalement, qui est un peu le fondement du capitalisme, de nos sociétés modernes, contemporaines, je me suis dit, ok, comment je peux essayer d'apporter en fait, d'apporter la chose qui va contrecarrer ça, d'apporter l'esprit petit prince dans le quotidien des gens. Et ça peut être de plein de façons. Là, vous voyez, bah, par exemple, à travers les podcasts ou à travers les réseaux sociaux, mais je suis comme ça aussi dans ma vie personnelle, dans mes relations sociales et tout. Et pour moi, c'est trop important, par exemple, de me dire, ah, je rencontre quelqu'un dans la rue, un inconnu, il me demande son trajet ou quoi. J'ai toujours cet esprit-là. Et ça, pour moi, c'est faire la différence de pouvoir apporter, en fait, même dans une relation. Et je l'ai toujours en tête quand je vais, je sais pas, dans un magasin, je vais toujours parler avec la personne et je vais essayer de, voilà, de relativiser plein de choses pour aussi de la faire relativiser et tout. Et voilà, en fait, ayez vos valeurs en tête. Et ça, c'est trop, trop important. Une dernière question qui va vous être utile et qui va vous permettre justement de combattre ce truc-là de rien m'intéresse. Voilà, moi j'ai la flemme de tout, il n'y a rien qui m'intéresse. Je vois vous avez des centres d'intérêt, vous faites ci, vous faites ça, moi je m'en fiche. Eh ben, dites-vous, maintenant si on vous enlève votre maison, donc en fait, vous ne pouvez pas être chez vous, d'accord? Tous les jours, vous devez être dehors. Qu'est-ce que vous feriez, où iriez-vous, ok? Tous les jours du matin au soir. Par exemple, moi, je me dirais, ok, bah, je pense que j'irai au sport parce que ça va me permettre de me dépasser. Ça dure quand même un bon bout de temps. Là-bas, c'est cool parce que c'est un truc qui est bien pour moi. Sûrement que j'irai au cinéma parce que j'aime beaucoup les films. Ouais, essayez de voir, en fait, découvrez ce qui vous passionne, ce qui compte pour vous. Ça, bien sûr, c'est un processus parce qu'il va falloir tester. Il n'y a aucun d'entre nous, bah, en fait, qui sait, ah, je kiffe cette activité. Tant qu'on l'a pas faite. Donc demandez-vous vraiment s'il y a quelqu'un qui vous dit ok, tu quittes ta maison tout de suite et tu peux ni dormir, ni aller manger au resto, on va dire. Qu'est-ce que tu ferais pour t'occuper? Et vous n'allez pas simplement vous asseoir dans un café et scroller H24 sur vos téléphones, sur les réseaux, etc. Voilà, vous allez faire ça, enfin, j'ose espérer, hein, sinon on vous enlève aussi votre téléphone. Ça fait tellement mal au crâne, tellement mal au cerveau. Du coup, en fait, qu'est-ce que vous allez faire activement? Est-ce que vous allez chercher, je sais pas moi, aller obtenir, vous allez être dans les études, vous allez inventer quelque chose, vous avez envie d'aller faire de l'humanitaire, moi j'en sais rien. Vous iriez juste vous balader, lire, parler aux gens, vous avez envie de faire une maraude, voilà. Et ces choses-là, c'est pas les choses que vous allez faire H24, mais c'est justement pour vous dire, ok, là si j'étais dehors tout le temps et que j'avais mes 24 heures par jour pour faire un truc important, eh ben, qu'est-ce que je ferais? Et là, on en revient au début qui était qu'est-ce que je peux faire de mon temps qui est important? Qu'est-ce qui vous a passionné à un moment? Qu'est-ce que vous pourriez faire? Et comment vous devriez le faire? Et là, ensuite, vous réfléchissez à tout ça. Et ça va rejoindre, là on est dans le dilemme, voilà, vous devez sortir de chez vous. Si vous deviez mourir dans un an, qu'est-ce que vous feriez? Et comment vous voudriez qu'on se souvienne de vous? Et ça, c'est trop important. Parce que la mort, c'est la seule chose qui nous donne une perspective sur la valeur de notre vie. Parce que c'est qu'en imaginant cette inexistence, pardon, qu'on peut avoir une idée de ce qui est le plus important dans notre existence, encore plus quand on est croyant, parce que justement, c'est que cette vie-là, elle est importante et elle compte pour nous, parce que c'est une vie où justement on doit mettre à profit chaque jour. On sera questionné, en tout cas pour les personnes qui sont musulmanes, on sera questionné sur comment on a vécu notre jeunesse, comment on a utilisé notre argent, comment on a vécu, qu'est-ce qu'on a fait de notre temps. Et c'est pas pour rien ces questions-là, c'est parce que la vie doit avoir un sens. Et même les personnes qui ne pensent pas qu'il y ait quelque chose après la mort, la vie doit avoir un sens, parce que sinon, si elle n'a pas de sens, alors on n'a rien à faire ici. Et vous connaissez la suite de ce raisonnement. Donc, je sais que ça peut faire flipper et tout, de penser à la mort et à la vieillesse et à ci et tout, mais si vous aviez vraiment un an à vivre, qu'est-ce que vous feriez? Et me dites pas, oui, je vais prier toute la journée. Non, en général, vous allez faire des choses quand même. Vous avez un an à passer, vous n'allez pas le passer dans votre lit à méditer du matin au soir ou à être avec vos parents du matin au soir. C'est faux. Donc vraiment, dites-vous comment la mort peut donner en fait une perspective sur la valeur de ma vie et quel héritage je veux laisser. Qu'est-ce que les gens, vous voulez, en fait, qui racontent quoi à votre sujet? Et là, on n'est pas dans je me soucie du regard des gens, non. Plutôt même, qu'est-ce que vous auriez dit de vous à ce moment-là? En fait, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous? Et vous travaillez à ça. Et ça peut commencer par, voilà, moi, si je meurs dans un an, j'aimerais que mes parents, en fait, se disent que j'ai été une fille qui était assez gentille, bienveillante, qui a passé du temps avec eux. J'ai pas envie qu'ils parlent de moi ou qu'ils pensent de moi que j'ai été chiante, que j'ai été impolie, que j'ai été négligente, etc. J'ai envie d'avoir apporté au monde, d'avoir inspiré, d'avoir motivé, d'avoir laissé une trace qui va permettre de peut-être ruisseler et de créer des personnes ensuite qui seront dans les mêmes valeurs, dans la même vibe. J'aimerais, et là, c'est pas les gens qui disent de moi, j'aimerais dire de moi que j'étais une personne qui me suis dépassée et qui, malgré les bas, qui a quand même fait des efforts en fait pour se relever, pour traverser les épreuves, et même si c'était dur, bah, qui a réussi, on va dire, 50% des fois, et qui, toutes les autres fois, bah, c'était comme ça. Et voilà, vous pouvez parler de vous, en fait, parler de vous. Et là, moi, je le fais aléatoirement au feeling et je peux pas vous raconter toute ma vie, mais on peut essayer de dire des choses comme ça. Et quand on a l'impression qu'on n'a aucun sens d'orientation, quand on a l'impression qu'on n'a aucun but, finalement, c'est parce que justement, c'est pas ce qui est important pour nous. Et en faisant ça, on peut se dire, ok, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que dans un an, vous voulez dire de vous, ok, c'était trop cool, elle a été un an, je sais pas, moi, un travail, bah, je prends mon travail, elle a été un an consultante IT dans un cabinet de conseil et elle aimait pas du tout ça. Et elle pleurait tous les matins dans le métro avant d'aller au travail. Je ne pense pas. Donc, vraiment, il y a ça. Et ça peut être aussi, par exemple, pour vos relations. Est-ce que dans un an, vous voulez dire, ah, alors, elle a été mariée ou elle a eu des amis qui étaient malsains ou elle a vécu dans des relations toxiques et elle s'est toujours effacée pour les autres? Je ne pense pas. Vous avez envie de dire, plutôt, elle s'est épanouie, elle a mis des barrières dans ces relations-là, elle a trouvé des relations qui l'ont, voilà, qui étaient saines et qui l'ont permis de passer du bon temps et qui ont rendu les choses importantes. Et c'est pas forcément des grandes réalisations, c'est simplement trouver un moyen de bien passer votre temps qui est limité finalement. Quand on se dit dans un an, en fait c'est parce que comme je vous ai dit, chaque journée se perd et du coup votre temps est limité. Donc oui, vous devez sortir de votre canapé, vous devez agir et on est tous les mêmes humains avec les mêmes capacités. Vous devez penser au-delà de vous-même, vous devez penser plus grand que vous-même et paradoxalement en imaginant un monde sans vous-même. Donc, quelle valeur peuvent guider ces actions-là. Et ne vous dites pas oui, mais moi, j'ai pas envie de faire ça, je veux juste regarder des séries et puis c'est tout. Il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes malheureux, alors il faut pas venir après me dire oui Anya, moi je suis voilà, je subis ma vie. Ok, tu subis ta vie, donc il faut lui trouver un sens. Pour trouver un sens, il faut se trouver des objectifs et des valeurs qui drivent ces objectifs. Moi, mais bien sûr que je serais trop mal si je me disais pas demain je dois faire ci, ça, parce qu'en gros, je me coucherai et je me dirai pourquoi je dors et pourquoi je me réveille si demain j'ai rien à faire, en fait, ça n'a aucun sens. Donc non, le demain, je me dis, ok, je vais me préparer un bon petit déj parce que ça me fait kiffer. Après, je vais aller au sport parce que c'est trop cool. Et après, je vais travailler sur telle chose parce que j'aime bien. Ou je dois aller au travail de toute façon parce que bah, il faut que je gagne de l'argent pour ma famille. Et ça, c'est cool parce que j'ai envie d'aider ma famille. Et le soir, je vais, si, ça. Mais en fait, si on se dit demain, bah tout ça n'a. En fait, je n'ai rien. Forcément, si on ne se crée pas des objectifs quotidiens, alors la vie n'a aucun sens et sans objectif. Alors on perd espoir et justement on se dit je suis nulle à tout et je ne sers à rien. Sortez marcher, sortez, je sais pas moi, rencontrez des gens, demandez-vous ce que vous aimez faire, perdez-vous sur YouTube, il y a tellement de ressources. Découvrez-vous une passion, commencez, cherchez et voilà, après vous allez être un peu plus en profondeur. Mais en tout cas, moi, je ne suis pas d'accord avec ce truc-là de oui, moi je n'ai pas envie d'apporter au monde, j'ai pas ci, j'ai pas ça. En fait, c'est dans notre spiritualité, comme dans les neurosciences, la science, etc., c'est prouvé. Donc à partir de là, c'est comme les personnes qui me disent, oui, moi j'ai pas envie de faire d'activité physique. Ok, pas de problème. Mais c'est prouvé. C'est prouvé qu'il faut être en mouvement, c'est prouvé qu'il faut bien manger, c'est prouvé que si, que ça, etc. Donc maintenant, là, je vais être en mode dev perso, en mode coaching. C'est soit vous le faites et ok, vous essayez, c'est cool, soit vous ne le faites pas et auquel cas, si vous me dites, oh, moi je le fais pas et je suis très bien dans ma vie, bah c'est peut-être que finalement vous avez les choses hein, qui sont importantes, juste vous le savez pas. Mais si vous le faites pas et que vous venez me dire après, oui, moi j'aime pas ma vie, j'aime pas ci, j'aime pas ça, mais tout ça, ça me fait pas kiffer. Mais tout ça quoi en fait? Donc voilà. Par rapport à vos passions, essayez de trouver vos passions, trouvez ce que vous aimez. Passez du temps à faire cette chose-là, même si au début vous allez être nul. Trouvez qu'est-ce que vous ne voulez pas sacrifier, qu'est-ce qui vous tient à cœur, etc. Et ça va changer un petit peu de votre quotidien. Donc à la question, quel est mon but dans la vie, the purpose of life, finalement, pour moi, c'est la somme des journées qu'on passe. C'est la somme des objectifs qu'on se met. C'est la somme de ce qui nous tient à cœur. C'est la somme des moments importants de notre vie. Ça, c'est notre but dans la vie. Et bien sûr, à côté, il y a, comme je disais, les moments non importants, mais qui ont tout autant d'importance parce qu'ils permettent justement de faire des pauses mentales, de comprendre, même si c'est répondre aux besoins primaires. C'est voilà, ça c'est les rythmes de la vie et on ne pourra pas y déroger. Voilà, je pense avoir fini. Si vous avez des réflexions par rapport à ça, je serais ravie de les recevoir pour qu'on puisse justement développer un petit peu cette réflexion parce que je ne sais pas trop si je l'ai bien développée. J'ai parlé comme ça en flux interrompu et j'espère que ça vous aura aidé. Allez, bonne journée, bonne soirée selon votre fuseau horaire. Bisous!